J'ai dû louper un épisode. Les entretiens de Pascal Fourier. Jean-Pierre Chevènement, deuxième partie de l'interview qu'il m'a accordée le 15 septembre de cette année 2009. Dans la première partie de l'entretien, j'avais cherché essentiellement à ce que Jean-Pierre Chevènement nous apporte les arguments qui sont les siens pour justifier l'idée que la nation n'est pas un concept désormais vide de sens. Mais je savais bien que Jean-Pierre Chevènement avait été longtemps membre du PS, et même un membre éminent, jusqu'à ce qu'il le quitte en 1993. Or, la référence permanente à l'Europe faite par les socialistes, le renoncement évident à évoquer l'intérêt national, la nation même, ne cesse de m'étonner, si du moins on crédite les socialistes du fait de chercher à s'opposer au néolibéralisme. J'orientais donc l'entretien vers des questions concernant le Parti Socialiste pour que Jean-Pierre Chevènement, homme qui regarde toujours les choses dans la durée, m'aide à comprendre. Qu'est-ce qui explique que la gauche et le Parti Socialiste en particulier a fait justement sienne cette idée européenne et, me semble-t-il, a abandonné la question sociale à cette occasion?
Ah, c'est un autre aspect. On a fait croire au Parti Socialiste, à partir des années 83-84, que l'Europe était notre avenir, la France étant encore notre patrie, mais ce qui voulait dire en fait que l'Europe sera notre patrie, la France étant plus que notre passé. Et donc il y a eu dans ces années-là une certaine mise en congé de la nation qui en fait a sublimé un choix social très différent qui est la capitulation devant le néolibéralisme triomphant. Madame Thatcher, Monsieur Reagan avaient gagné les élections de 1979-1980. Ils ont imposé le système du capitalisme financier mondialisé. Et ils y ont réussi. La Chine a accepté de jouer le jeu. L'URSS s'est effondrée. L'Europe s'est alignée. L'acte unique et le traité de Maastricht, ce sont des textes d'alignement sur un libre échangisme échevelé, y compris au niveau des mouvements de capitaux. Donc l'équilibre entre le travail et le capital a été rompu. Mais on a dit c'est au nom de l'Europe. Puis on s'est aperçu que c'était une Europe offerte, une Europe ouverte, une Europe où il n'y a plus que 1,5% de droits de douane, alors qu'en 1992 il y avait encore 14,5%. C'est une Europe qui est dominée par le principe de la concurrence, libre et non faussée. Mais au nom de ce principe, qui a été réaffirmé vigoureusement dans l'acte unique, 1985-87, c'est-à-dire négocié en 1985 et adopté par le Parlement en 1987, hein, dans l'acte unique, vous avez ce principe de la concurrence qui est la négation de toute politique industrielle et la condamnation de l'idée même de service public. Tout cela au nom de l'Europe. Donc il y a un élément de mystification dont beaucoup de socialistes ne sont pas encore revenus. Mais je crois que les socialistes offraient un terrain favorable parce qu'ils avaient toujours mal compris l'internationalisme. Et c'est pourquoi Jaurès leur en faisait amicalement la remontrance. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. C'est que les socialistes ont pensé que on pouvait construire un monde sur la base du seul internationalisme et de la négation des nations. Or, ce que Jaurès voulait leur expliquer, ou leur faire comprendre, c'est que la nation était la brique de base d'un internationalisme bien conçu. Parce qu'il y a évidemment deux conceptions de la nation. Il y a la conception républicaine, la nation est une communauté de citoyens, indépendamment de toute question d'origine, de religion, d'opinion philosophique. Puis il y a la conception ethnique de la nation qui a été historiquement portée par l'Allemagne contre la conception incarnée par la France de la Révolution. Alors, je ne dis pas que la France a eu raison de vouloir exporter la démocratie à la pointe des baïonnettes. Robespierre était contre. Mais je dirais, le nationalisme ethnique a produit des conséquences si effrayantes que je crois aujourd'hui personne n'oserait plus s'en réclamer à voix haute la conception que j'appelle républicaine ou citoyenne de la nation. A triomphé, même en Allemagne, le droit du sol a fini par l'emporter en mai 1999. Je m'en souviens très bien, j'étais ministre intérieur et j'en ai beaucoup parlé avec mon collègue allemand de l'époque, Otto Schily. Ça n'allait pas de soi, parce que les Verts allemands voulaient qu'il y ait des passeports mentionnant l'origine des Allemands, c'est-à-dire allemand-turc ou bien allemand-bosniaque. Donc on aurait eu les Allemands allemands, les Allemands turcs et les Allemands bosniaques. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de s'arracher à une tradition nationale ancrée dans les siècles. Et le peuple allemand s'est défini à travers Fichte en 1806 comme un peuple originaire, c'est-à-dire parlant sa propre langue, et non pas comme la France une langue artificielle. Emprunté au latin. Nous ne parlons pas gaulois. Il y a très peu de mots gaulois dans le français. Nous parlons une langue essentiellement latine. Eh bien, c'est l'observation que faisait Fichte en disant qu'il y avait une supériorité dans le peuple allemand qui était dans sa langue, dans sa culture. C'est le discours à la nation allemande qui a connu ensuite quelques dérives. Et je pense qu'il faut quand même garder présent à l'esprit que la nation doit être ouverte à l'universel, et la conception républicaine de la nation est fondée sur des valeurs universelles qui lui permettent de travailler avec d'autres nations, de coopérer, peut-être un jour de fusionner, tout est possible. Et j'observe que ça ne se fait pas facilement. Je n'ai pas vu qu'entre les Belges wallons et les Belges flamands, cette affaire ait beaucoup progressé depuis que la Belgique a été créée en 1830. Je pense qu'il y a une certaine résistance qui est inscrite dans la réalité historique. Moi, je suis né à Belfort. La frontière entre le parler alémanique et le parler roman reprend très exactement celle qu'avait tracée un empereur romain, Majorien, au 4e siècle ou au 5e siècle après Jésus-Christ, pour séparer les Burgondes romanisés du côté de Belfort et les populations alémaniques du côté de Mulhouse. Bon, alors évidemment, ça a changé parce que les gens à Mulhouse parlent français, mais la topographie, les noms de lieux, le dialecte même restent alémaniques. D'ailleurs, moi-même, je suis un prototype. Mon nom s'écrivait avec un S. Ma famille est originaire d'un canton suisse qui est à la fois germanophone et francophone. Mais ma famille, à l'origine, est germanophone. Mais elle s'est francisée au long des siècles. Ça prend du temps. Je n'en tire aucune gloire. Et j'ai beaucoup de sympathie pour la Suisse, contrairement à Doxa dominante, mais bien qu'il n'y ait aucun compte, malgré ce qu'on a pu dire dans l'affaire Claire Stream, non, je pense que il faut avoir le sens de la longue durée, le sens de l'histoire, et on ne fait rien de bien si on ne comprend pas le réel.
Justement, quand vous parlez de durée, ce qui m'étonne, c'est que les socialistes en particulier ont, comment je pourrais dire les choses, l'opposition par exemple entre libre-échange et protectionnisme, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Il y a eu de longs débats dans les siècles antérieurs.
Bien sûr.
Et on a l'impression que les socialistes sont un peu tombés de la dernière pluie en avalisant justement le libre-échange, sauf dans la branche amont, on peut dire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et en particulier cette espèce de, de rejet de la pensée des siècles précédents, socialistes en particulier.
Cette question n'a jamais été une question de doctrine. Marx lui-même n'était probablement pas favorable aux droits de douane, parce que il est partisan du développement international du capitalisme, qu'il voyait d'un œil très favorable, parce qu'il pensait qu'il allait accoucher du socialisme. Enfin, pour ce qu'on sait de la pensée de Marx, appliquée notamment aux États-Unis, où le Nord était libéral, tandis que le Sud était protectionniste. Mais les États-Unis ont été protectionnistes au XIXe siècle, comme l'Allemagne. Ils mettaient en application la théorie de Liszt. Et leur industrialisation s'est faite sur cette base, comme celle des pays de l'Asie au XXe et XXIe siècle. En réalité, ces pays protègent leur industrie nationale. La Chine n'accepte des investissements que si ce sont des joint ventures. En réalité, il y a beaucoup de naïveté dans tout cela et certainement une grande sensibilité à l'idéologie dominante, qui est une idéologie libérale. Je pense que face au phénomène des délocalisations industrielles, les socialistes feraient bien de réfléchir, parce que il y a une concurrence équitable entre l'Europe et le dollar d'une part, et puis les pays à très bas coûts de l'autre, serait le moyen de maintenir notre tissu productif. J'étais ministre d'industrie, il y avait 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie en 1982-83. Aujourd'hui, 3,5 millions. Alors je veux bien qu'il y ait eu beaucoup de modifications, que les services industriels se soient développés, mais pas dans cette proportion. Nous avons vu notre tissu industriel s'éroder. Des entreprises comme par exemple la sidérurgie ou l'aluminium sont passées sous contrôle étranger. Et les délocalisations ne revêtent pas seulement la forme de fermeture d'entreprise. Ce sont des redéploiements qui sont faits à travers des plans sociaux ici et des investissements là-bas, avec embauche. Donc on voit bien que par exemple pour les téléviseurs, ils ne fabriquent plus de téléviseurs, ils sont faits en Chine. Thomson a été racheté par TCL.
Et est-ce que les socialistes, un jour, prendront acte de cette réalité ?
Je ne suis pas très optimiste, parce que il y a une hostilité viscérale à l'idée nationale ou à tout ce qui pourrait s'en rapprocher, qui a pu être justifié à un moment par la confiscation du thème national par la droite, par exemple au moment de l'affaire Dreyfus. Mais il faut se rappeler que l'idée de nation est née à gauche. C'est une idée, je dirais, révolutionnaire, une idée très largement jacobine, liée à l'idée de citoyenneté, à l'idée de démocratie. Charles de Gaulle, d'ailleurs, disait souvent que la démocratie et la souveraineté nationale sont les deux faces d'une même médaille. Mais tous les socialistes n'ont pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'ils ont combattu pour la libération du capitaine Dreyfus que des gens comme Jaurès ont renié la patrie. Il en va de même à plus forte raison pour Clémenceau ou pour Péguy. Donc ces confusions, tous ne les ont pas faites. J'ajoute que la guerre de 1914-1918, on essaye de noyer les responsabilités. Quand même rappeler que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie et à la France, qui a envahi la Belgique au mépris des traités, ce qui a provoqué l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. On ne peut pas faire comme si tout cela n'avait pas existé. L'Allemagne, à ce moment-là, a appliqué un plan d'état-major qui avait été conçu dans les années 1902, le plan Schlieffen, qui consistait à envahir la France par la Belgique, se débarrasser de la France d'abord, puis se retourner contre la Russie. Vieille stratégie, hein, qui a été appliquée avec succès en 1940-41, enfin jusqu'à un certain point, jusqu'à Stalingrad, heureusement. Vous souhaitez en savoir plus ? Parce que là, je vais devoir aller à une réunion. 50 ans.
Quel espoir vous porte encore, justement ?
J'ai une certaine exigence du point de vue de la vérité. Je n'ai jamais hésité à bousculer les idées reçues, y compris quand elles étaient professées par mes propres amis. La gauche est aujourd'hui très éclatée, mais ce que je représente est... La petite troupe de mes amis représente quand même constitue un point fixe. Et une grille de lecture qui réalise un peu la synthèse de l'idée républicaine et de la méthodologie marxiste. Je dis bien la méthodologie parce que je ne partage pas le prophétisme de Marx. Donc je me définis comme républicain. Républicain, il défend l'intérêt général de son pays, qu'il n'oppose pas à l'intérêt général de l'humanité. Donc, je sais qu'au bout de 40 ans, un homme politique n'a pas forcément que des amis, hein, surtout s'il a passé sa vie à combattre ardemment. Donc, je m'accommode de mes adversaires. Donc je les connais. Et je pense qu'à certains moments, le bon sens reprend le dessus. La France a été quelquefois beaucoup plus bas qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, ayant joué un certain rôle dans la reconstitution de la gauche, dans les années 60-70, et n'ayant pas perdu le souvenir de ce qu'était la gauche à ce moment-là, c'est-à-dire, croyez-moi, pas grand-chose. Je mets à part le Parti communiste, qui était sur son rail, si je puis dire. Hein. Mais nous avons reconstitué un grand parti socialiste, nous lui avons donné deux programmes, nous avons fait lever une espérance, nous avons attiré des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de militants, de sympathisants. Nous avons créé les conditions de l'alternance. Mais moi, entre le moment où j'adhère au Parti Socialiste 1964 et l'alternance de 1981, c'est 17 ans d'effort. Donc je suis un peu triste, évidemment, de voir que la gauche a tourné le dos aux couches populaires, qu'elle s'est inclinée devant le libéralisme, le néolibéralisme dominant. Mais je voudrais voir, avant que ma vie se termine, la gauche échapper à ce cercle maléfique, hein, et se reconstituer sur une base solide. Disons qu'il y a beaucoup de travail, donc j'ai un emploi du temps très chargé.
Il avait un emploi du temps très chargé, alors j'ai enfin filé. Vous pouvez écouter la première partie de cet entretien sur www.jaidulouperunepisode.org, en lire la transcription ainsi que celle de cette deuxième partie qui complète, je pense, utilement la première dans les précisions qu'elle apporte sur les deux conceptions de la nation, la conception ethnique et la conception républicaine. Voilà, bonne écoute et bonne lecture.